Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
La course est bien, je me sens bien, tout va bien, je suis dans les temps et je sens que vers la fin, donc là je parle à 2-3 km de l'arrivée, c'est encore très flou, hein. C'est des souvenirs qui sont revenus parce que ça fait presque 6 ans maintenant, mais c'est vrai que 2-3 km avant la course, dans le dur, je commence à voir que je suis dans le rouge et en fait, bon je ne le sais pas, mais j'ai ouvert l'application running quelques mois après et j'ai vu qu'à 500 mètres de l'arrivée, blackout complet et je me suis réveillé 2 mois plus tard. Voilà, moi je me réveille 2 mois plus tard, je ne peux plus marcher. Je peux plus me lever, je sais pas marcher, et on me dit que c'est sympa d'aimer le sport, mais qu'ils sont désolés et que un médecin vient me voir et il me dit sport c'est fini pour toi maintenant. Et là, je te le dis comme dans les films, tu vois, ça a fait clic et je lui ai dit comme ça, on se revoit dans 9 mois et la prochaine fois. Là, je vais partir. La prochaine fois qu'on se revoit, j'aurai la médaille du marathon de monde autour du cou. Et là, il m'a dit. Que j'étais cute, il m'a mis une petite tape sur l'épaule et il est parti. Et là, tu as 2 choix. C'est soit on se souvient de toi en mode moins de 30 kilos avec des jambes ouvertes et une trachéote dans le cou, ou on se rappelle de toi avec la médaille du marathon de Londres.
Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume et je suis très heureux de vous accueillir dans le premier épisode de ce podcast Course Épique. Véritable passionné, je pratique la course à pied et le trail depuis une dizaine d'années. Comme Obélix, mais à un âge plus avancé que le sien, on peut dire que je suis véritablement tombé dedans. Cette idée de podcast m'est venue car, au-delà de partager des conseils de préparation, ce que d'autres font très bien, je voulais aborder cette pratique par sa dimension humaine, par des histoires. Vous l'entendrez au fil des épisodes, du coureur pro à l'amateur passionné, tout le monde a sa place dans course épique. La seule chose qui compte, c'est l'histoire, l'aventure humaine, le partage d'émotions. Cette possibilité de vivre au plus près de mes invités, une course qui a marqué à jamais leur vie de sportif, et plus que tout, leur vie de femme ou d'homme. Pour ce premier épisode consacré au Marathon de Londres, j'ai le grand plaisir d'accueillir Guy Pelan. Nos routes se sont croisées avec Guy dans nos vies professionnelles précédentes, et par chance, nous n'avons jamais perdu contact depuis. Lié par l'amour du sport, et notamment de la course à pied, j'ai tout de suite pensé à lui pour qu'il partage avec vous son histoire incroyable survenue en Angleterre il y a 6 ans. Une histoire bouleversante et fondamentalement source d'optimisme et preuve d'une volonté sans pareil que Guy incarne à merveille. Je pense que ça y est, le moment est venu de prendre avec lui le départ de sa course épique. Salut Guy, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode de Course Épique.
Salut Guillaume.
Hello. Et bah écoute, pour commencer, je te propose de te présenter à nos auditeurs.
Guy, je suis à Marseille. À Marseille, moi je travaille pour le club de football local. Je fais du sport tous les jours, assez régulièrement. J'ai la chance de travailler dans un endroit au centre d'entraînement où on a une forêt, des terrains de foot, des salles de gym, etc. Donc c'est assez cool et des montagnes autour pour aller courir. Donc super lieu de vie, super lieu de travail et le soleil, la mer, les gabions. Donc
la carte postale marseillaise.
La vraie carte postale marseillaise.
Et sur ta pratique du running, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que t'as plutôt un profil qui aime courir pour le loisir, ou est-ce que la compétition, c'est un truc qui te motive particulièrement?
Alors, je cours depuis pas si longtemps que ça, en vrai, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. C'est à Londres, on en reparlera, où je m'y suis vraiment mis, parce que tu as de l'espace à Londres, tu as la Tamise, donc c'est là où j'ai vraiment commencé. Et depuis, oui, certaines courses, donc j'en suis à plusieurs marathons, plusieurs semis. Je cours toutes les semaines, quasiment 3 fois par semaine. Et la chance d'être à Marseille, c'est que je vis près de la Corniche, qui est un super spot de runners. Et si on pousse un peu pour ceux qui connaissent Marseille, on peut aller jusqu'à Calongue, les Goudes, etc. Donc ça fait des super terrains de jeu et le running. Alors compétition, pas dans le sens aller chercher un temps où je suis pas forcément rapide. J'ai un physique, je fais beaucoup de rugby, donc j'ai un physique assez costaud, mais plus la performance ou le challenge contre soi-même, c'est plus ça. Et puis le running, ça permet de s'évader aussi, donc dans ta tête, tu penses à plein de choses. Moi, je dis que je range ma chambre après un run, donc c'est plus pour ça, tu vois, tu sors avec, je sais pas, après une journée un peu compliquée au travail où voilà, tu as la tête qui part dans tous les sens, tu vas courir et puis tu reviens chez toi, en fait, t'es zen, ta chambre est rangée, voilà. C'est l'idée que j'aime bien.
Parfait. Écoute, on en sait un peu plus sur toi maintenant. On va démarrer par la première rubrique de ce podcast. Cette rubrique, elle s'appelle Basket chinoise. Donc l'idée, c'est que c'est un portrait chinois, mais en version coureur. Une petite explication de texte pour peut-être ceux qui ne connaîtraient pas le principe du portrait chinois. Ce qu'en dit Wikipédia, c'est un portrait chinois, ça permet de déceler certains aspects de la personnalité d'un individu et d'identifier ses goûts et ses préférences personnelles au travers d'un questionnaire basé sur l'identification à des personnes, des objets ou divers éléments. Bon, ça a l'air très compliqué, en vrai, c'est assez simple. Voilà, donc moi j'ai trois questions, Guy, pour te connaître encore un peu mieux pour cette basket chinoise. Si tu étais un personnage de fiction, est-ce que tu peux nous dire qui tu serais et pourquoi?
Comme ça, je dirais Jacques Mayol. Alors, le Jacques Mayol du Grand Bleu, pas le vrai personnage, pour plein de raisons, parce que je m'identifie à lui, il est parfois dans son monde, puis il est très près de l'eau, il essaye d'être bon dans ce qu'il fait, etc. Je me suis beaucoup identifié à cette personne-là dans ce film. Donc, je dirais Jacques Mayol du Grand Bleu. Voilà.
Ok, très bien. Et si tu étais un animal?
J'ai réfléchi un peu au truc. Alors, j'ai choisi le bouc. Voilà.
C'est
Je
pas
vais
le premier
expliquer
animal auquel on pense, ouais.
non, et j'étais aussi le premier surpris quand j'ai vu la description, la symbolique du bouc. Mais pareil, je me suis retrouvé. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que c'est pas l'animal le plus sexy au premier abord. Je sais pas, le bouc, il a cette idée de s'aspirer à s'élever, tu vois, de prendre des chemins inexplorés, on l'imagine dans sa montagne. Voilà, il y a l'idée de but élevé, il met tout en œuvre pour atteindre certains objectifs. Et puis, je trouve qu'il est jamais aussi bon que quand il est au pied du mont. C'est quelque chose que j'ai pu vivre plusieurs fois aussi.
Dernière question dans le cadre de ce portrait. Quel est le film qui illustrerait le mieux, voilà, le coureur que tu es? On a déjà parlé du Grand Bleu, mais est-ce qu'il y en a un autre qui te semble représentatif?
Il y en a plein, hein, des films là-dessus, mais j'en ai un. J'espère, ou je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais en tout cas, je t'encourage, toi et puis tous ceux qui nous écoutent, à le voir. C'est La vie rêvée de Walter Mitty. Pour faire le pitch rapidement, en fait, c'est
C'est Ben
un
Stiller, c'est ça?
Stiller exactement, qui est aux archives, dans un magazine Life, je crois, enfin, aux archives photos, dans son sous-sol, qui fait pas grand-chose, qui est un peu le loser du truc. Et puis, ouais, il vit des aventures à travers un photographe qui est joué par Sean Penn, qui vit des aventures de Sean Penn depuis sa cave, mais lui, il lui arrive pas forcément grand-chose, tu vois.
La vie pas rêvée de Walter Mitty, finalement.
En gros, c'est vraiment pas la vie rêvée de Walter Mitty, mais le jour où il décide de se lancer et de partir à l'aventure, en fait, il finit par vivre beaucoup plus que la personne qui l'idolâtrait, où il va au-delà de ses rêves et au-delà de ce qu'il imaginait. J'aime bien cette idée-là.
Parfait, mais écoute, je ne l'ai pas vu. Je vais le noter dans ma liste de films à voir là. On a un peu de temps en cette période de confinement, donc voilà, je vais m'y coller dans les prochains jours. Merci pour ces baskets chinoises. On va parler maintenant de ta course épique, puisqu'on est là aussi pour ça. Voilà, l'histoire qu'on va partager ensemble, elle prend sa source outre-Manche, du côté de Londres, en pleine période de Coupe du Monde 2014. Toi, tu vivais à Londres depuis un certain temps?
Moi, j'y vivais depuis 2 ans. J'y suis resté 4 ans, 4 ans et demi en tout. Donc à ce moment-là, on est en juin 2014. Ça faisait ouais, 2 ans et demi que j'étais à Londres, je crois, 2 ans.
D'accord. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'était un cadre assez privilégié pour pouvoir pratiquer la course avec des grands espaces, des parcs dans Londres à profusion.
Alors ouais, à l'inverse d'une ville comme Paris, par exemple, les parcs à Londres, ils sont dans la ville. Après, la ville, elle est 10 à 20 fois plus grande, je parle d'intramuros, mais tu as Victoria Park, tu as Hyde Park, tu as des Regent Park, tu as des parcs partout qui sont, un, assez jolis, deux, immenses. Donc, pareil, des super terrains de jeu pour les coureurs, ou faire du vélo, se balader, etc., mais surtout pour les coureurs. Et puis, tu as la Tamise. À l'époque, je vivais dans l'est de Londres. J'habitais entre Shoreditch et Aldgate East. Donc, en fait, à 5 minutes, j'étais sur la Tamise. Et il faut savoir que la Tamise, bon, tu as des ponts, mais elle va très loin. C'est-à-dire qu'elle traverse tout Londres. Et si tu as envie de te lancer dans un 10 km, tu fais 10 km aller, sauf qu'il faut le faire au retour. Donc, tu peux vite fait te faire un petit gambon, un dimanche soir, tout en visitant, parce que tu passes devant des endroits fabuleux, le Tate, le Big Ben, etc. Donc, c'est de nuit, de jour. Et puis, tu n'es jamais les uns sur les autres parce que les trottoirs sont larges. C'est plutôt bien fait avec les pistes cyclables, les trottoirs larges, les voies de bus, etc. Donc, il n'y a pas forcément trop de voitures, pas trop de pollution non plus. Tu n'es pas dans les pots d'échappement. Super, tu as un jeu long pour courir. Et ouais, c'est là où ça a commencé la course. Parce que jusque-là, j'avais fait un 10 km avec une course organisée par une marque à Paris et c'est tout. Et en fait, à Londres, je te le dis, un dimanche, je mettais des baskets et je partais pour 20 bornes, chose que je n'avais jamais fait. Et c'est vraiment là-bas que ça a commencé. Et les premiers semis, les premiers scores aussi, les premiers super temps. Je suis passé à 1,35 au semi, au semi-marathon qui à Greenwich, donc qui ont monté, etc. Donc c'était aussi des bons challenges à se lancer. Et les Anglais adorent les courses. Et t'as aussi beaucoup de gens qui regardent ça. Donc ça fait des super ambiances. Donc ouais, Londres a vraiment été
l'accélérateur. Ouais.
Accélérateur, ouais.
Et donc là, un jour, tu décides de t'inscrire au Hackney Half Marathon. C'est ça, qui est un semi dans l'est de Londres. De ce que j'ai lu, moi, sur la course, c'est, ils disent que le parcours est très festif, il y a des rues assez plates et roulantes. Voilà, ils annoncent des groupes live et des DJ un peu partout pour soutenir les coureurs tout le long du parcours. Donc voilà, c'était la promesse d'une belle fête. Ça s'est pas exactement passé comme ça pour toi ce jour-là. Juste sur cette course-là en particulier, dans quelles conditions physiques et mentales tu t'es présenté sur la ligne de départ ?
C'est là qu'était le problème, c'est quand t'es pas forcément accompagné ou que tu fais un peu voilà des bêtises comme c'était mon cas. Faut savoir qu'une semaine avant le semi-marathon, j'avais fêté mes 27 ans, donc beaucoup d'excès. Et puis la course était un samedi de mémoire et le jeudi précédent, dans ma prépa, j'étais parti et j'avais fait un semi dans Victoria Park. Donc franchement préparé.
Un semi par un semi, ouais, c'est peut-être pas la meilleure option.
Par un semi, c'est vraiment pas la bonne option, mais je sais pas, ce jour-là, j'avais envie d'y aller. Et surtout, ce qui a pêché aussi, c'est une très mauvaise alimentation. Donc voilà, je vais faire un retour d'expérience aussi aux personnes qui nous écoutent, mais l'alimentation, ça fait vraiment partie à part entière. C'est même la moitié d'une préparation, c'est l'alimentation. À l'époque, je voulais perdre du poids parce que je voulais passer sous les 1,30 pendant ce semi. Donc, j'allais vraiment là pour le coup en quête d'un objectif, mais mal préparé et mal alimenté. Donc, quand je dis mal alimenté, c'est que pour perdre du poids, je m'étais mis en tête qu'il fallait que je mange beaucoup de légumes, du poulet, des œufs, des épinards. Et en fait, un régime trop protéiné. Il faut savoir qu'un régime trop protéiné, ça fait fonctionner les reins un peu trop qu'il devrait, et on en parlera tout à l'heure, mais ça a été la raison de ce qui m'est arrivé après. Mais voilà, en tout cas, j'arrive au semi le matin, donc voilà, au départ. Il faut savoir qu'il démarre dans le parc olympique de Londres, donc là où ils avaient accueilli les JO 2 ans avant. Donc super lieu, super ambiance, effectivement, des DJ partout. L'est de Londres, c'est le quartier un peu hipster, etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait des DJ assez cool, des mecs qui faisaient du beatbox et tout. Donc, super ambiance.
Le départ est donné. Et voilà, quelles sont tes sensations? Comment sont passés les premiers kilomètres?
Alors, moi, j'écoutais j'avais de la techno dans les oreilles, de l'électro dans les oreilles à fond ce jour-là.
Tu courais seul? Tu as pris le départ tout seul?
Alors, j'étais avec une personne que tu connais, avec qui on a travaillé, elle, Cyrine. On courait pas ensemble, on a pris le départ ensemble. Et c'est aussi grâce à elle qu'on peut se parler aujourd'hui. Elle m'a vraiment sauvé ce jour-là. Mais voilà, je pars sur cette course, donc électro à fond dans les oreilles. Je pars vite parce que forcément 1,30, faut y aller. Et puis franchement, tout va bien. Ils ont un peu changé le parcours, mais à l'époque, tu passes aussi dans des quartiers résidentiels, donc c'est vrai que c'est pas forcément du tout droit, c'est des virages, des pavés, etc. Mais la course est bien. Je me sens bien, tout va bien, je suis dans les temps Et je sens que vers la fin, donc là, je parle à 2-3 kilomètres de l'arrivée. C'est encore très flou, hein. C'est des souvenirs qui sont revenus parce que ça fait presque 6 ans maintenant. Mais c'est vrai que 2-3 kilomètres avant la course, je suis dans le dur. Je commence à voir que je suis dans le rouge. Et en fait, bon, je le sais pas, mais j'ai ouvert l'application Running quelques mois après et j'ai vu qu'à 500 mètres de l'arrivée, blackout complet. Et je me suis réveillé 2 mois plus tard. Donc, j'ai fait 2 mois de coma suite à cette course.
Donc, tu n'as aucun souvenir de la fin de la course, et quand tu dis blackout, c'est tu penses que tu tombes, enfin, tu n'as aucune idée de ce qui a pu se passer à ce moment-là?
Alors, on m'a raconté que j'avais une bosse au front, donc je pense que j'ai heurté, alors, soit un trottoir, soit une voiture, ou un truc comme ça en tombant. De ce que Cyrine, par exemple, a pu me raconter, c'est que forcément, à l'arrivée, elle ne me voit pas arriver. Elle m'appelle, elle va au temple de secours et en fait elle me voit inanimée et il m'avait mis sous des poches de glace. J'étais en, alors j'ai plus le mot, mais en gros je me débattais, mais j'étais pas
Pas
physiquement
conscient, ouais.
conscient. Mais voilà, mon corps est monté à 43 degrés en température. Normalement, ça peut être fatal. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est pendant la course, et en plus, je buvais pas d'eau. C'est ça qui est aussi important, c'est que je buvais pas d'eau à ce moment-là. J'avais bu la tasse en buvant dans un gobelet, parce qu'à Londres, ils donnaient pas forcément des bouteilles. J'avais bu la tasse une fois pendant une course. Et quand tu es à 18 km et que tu vas un peu vite et que tu bois la tasse, c'est pendant 1 km, c'est assez horrible. Et ça m'avait un peu traumatisé à ce moment-là. Et sur la course de Hackney Marathon, je ne buvais pas. Donc quand tu fais l'addition, alors il faisait chaud, il faisait 29 degrés à Londres ce jour-là, donc ça arrive pas souvent. 29 degrés, pas d'eau, des reins dans le rouge, à pas m'écouter parce que techno dans les oreilles, t'es un peu t'es un cheval lancé, tu t'arrêtes jamais. Donc cette addition d'erreurs et de contexte a fait que je me suis mis vraiment dans le rouge, mais à l'état physique du truc. Donc, mes reins ont arrêté de fonctionner et après c'est tout un processus dans ton corps. Donc, c'est comme dans une voiture, s'il n'y a plus le circuit réfrigérant, le moteur chauffe et c'est ça qui s'est passé. Je suis monté à 43 degrés et ce qui normalement est fatal, c'est là que je me suis évanoui et ils m'ont mis sous des poches de glace. Je gonflais apparemment, enfin c'est des réactions assez folles. Et Cyrine m'a vu dans cet état-là à ce moment-là et ils m'ont placé sous coma pendant 2 mois.
Pour revenir là sur ce moment où ça se passe, toi, t'avais pas, il n'y a pas eu d'altération progressive qui t'ont fait dire, ok, là, juste, il faut que j'arrête, enfin, il faut que je temporise un peu, ou je me mette sur le côté, que je marche. Ça a été vraiment très soudain, en fait. C'était passé en mode off, d'une seconde à l'autre, c'est ça? T'as pas eu le temps d'anticiper vraiment?
Non, vraiment pas. Et vraiment, ça se passait bien. Tu vois, je me revois. Alors, c'est des flashs, mais je me revois dans les temps. Le seul truc dont je me souviens, c'est ouais, 2-3 km avant où voilà, je commence un peu à serrer des dents, mais je pense comme tout coureur sur une course mi ou longue distance, mais pas d'évanouissement ou à marcher, tituber, etc. Ça, pas du tout. C'est vraiment, hop. La lumière s'éteint et voilà.
Et donc les 2 mois qui ont suivi, finalement, on te les a racontés. Toi, tu n'as aucun souvenir conscient de ce qui a pu se passer pendant cette période?
Non, 2 mois de coma, j'appelle ça une grande sieste. Bon, je vais pas m'épancher sur ce que tu vas. Imagine une longue nuit de 2 mois, donc tu fais des rêves assez fous. Enfin voilà. Moi, je me rappelle de ça. Par contre, le réveil, c'est un peu compliqué parce que forcément, tu ouvres les yeux, tu comprends pas forcément ce que tu fais là, ni qui sont les gens autour de toi, habillés en bleu avec des masques. Et puis, on te raconte progressivement, parce que si on te dit tout tout de suite, ça peut être assez traumatisant
Traumatisant, j'imagine.
et c'est vrai que t'es plutôt bien accompagné dans ces cas-là, que ce soit par le service médical, et toute l'équipe de Homerton Hospital dans l'Est de Londres. Donc ça, je ne les remercierai jamais, mais aussi de l'entourage familial, amical, qui doit te raconter, qui est briefé pour te raconter les choses progressivement. Mais voilà, moi je me réveille 2 mois plus tard, j'ai moins 30 kilos de ce que je fais d'habitude, donc de 85 je passe à 55. Toi tu me connais Guy, mais on est, quoi, quand tu fais 1m87 et 55 kilos, tu es rachitique en fait.
La peau sur les os, ouais.
La peau sur les os, les joues creusées, plus de muscles. Et surtout, j'ai des bandages aux jambes. Donc ça, je comprends pas trop. Et j'ai une trachéo dans la gorge, mais j'ai des bandages aux jambes. Et au début, je comprends pas trop parce que c'est comme des plâtres, tu vois. C'est pas un, ça ressemble pas à un pansement. C'est comme deux gros plâtres. Donc je pose la question de pourquoi. Et en fait, une des conséquences de ce qui m'est arrivé, c'est que donc c'est un syndrome des loges que j'ai eu. Et le coup des reins qui s'arrête, ça s'appelle une termaline aiguë. Mais le syndrome des loges, en fait, ça fait gonfler tes jambes. Donc, l'acide lactique qui est normalement traité par tes reins et qui est sécrété pendant un effort, en fait, il n'est plus traité par tes reins. Donc, en fait, il stagne dans les muscles, dans des poches de muscles. Et en fait, cet acide lactique il commence à nécroser et à manger en fait, tes muscles. Donc, en fait, pour éviter ça, ils m'ont ouvert les jambes. 8 grosses cicatrices sur toutes les jambes, mais on dirait un perfecto, hein. C'est une veste zippée.
Les jambes maintenant. J'ai vu les photos, c'est assez spectaculaire, effectivement.
Ouais. Bon, ça fait des histoires à raconter aux petites vieilles sur la plage qui posent des questions. Et comme Walter Mitty, tu vois, j'ai raconté des crocodiles, des trucs. Enfin, bref. Mais, donc je me réveille avec ça, et en fait, ouais, ils m'ont ouvert partout pour justement laisser passer et évacuer ce truc qui commençait à nécroser. Donc, je me réveille moins de 30 kilos, des jambes ouvertes. Et à l'époque, c'était ouvert. Il y avait des écarteurs et tout. Donc, le truc assez horrible. Et surtout, je ne comprends pas. Et je ne peux plus marcher. Je ne peux plus me lever. Je ne sais pas marcher. Et on me dit, que bon, bah, c'est sympa d'aimer le sport, mais qu'ils sont désolés. Et qu'un médecin vient me voir et il me dit, le sport, c'est fini pour toi maintenant. Désolé, mais tu peux plus, etc. Donc voilà l'état un peu dans lequel tu
t'encaisses tout ça là, la première fois tu te réveilles et tu prends toutes ces informations d'un seul coup.
C'est assez violent et heureusement voilà, j'étais accompagné, même si à l'étranger j'avais ma famille qui faisait des allers-retours, j'avais des amis sur place, donc Cyrine dont je parlais tout à l'heure et d'autres amis qui me rendait visite régulièrement, mais c'est assez violent et surtout tu es en trouble du sommeil, tu viens de dormir 2 mois, tu viens de faire des rêves assez chelous et je voulais pas me rendormir, donc pendant 2 semaines j'ai pas dormi une minute, donc ça fait que tu es en trouble du sommeil, t'encaisses le fait que tu peux pas faire de sport, tu as moins de 30 kilos, tu peux pas marcher, tu es un légume et tout, franchement violent. Et,
tu refusais en fait l'idée de dormir, c'est ça? Tu avais peur des conséquences et potentiellement de pas te réveiller?
Ouais, je voulais pas retourner dans les rêves que j'avais fait comme en commun. Et donc, ouais, assez violent tout ça. Le coup de grâce, mais qui en fait a été un vrai déclic et je l'ai remercié depuis. Mais c'est ce médecin qui vient me voir et qui me dit le sport, c'est terminé. Je te le dis comme dans les films, tu vois. Ça a fait clic, gros déclic dans ma tête. Et je lui ai dit comme ça. Bon, je te le fais en français, mais ok, bah écoutez, on se revoit dans 9 mois et la prochaine fois, là je vais partir quand je partirai, mais la prochaine fois qu'on se revoit, j'aurai la médaille du marathon monde autour du cou. Et là, il m'a dit que j'étais cute, il m'a mis une petite tape sur l'épaule et il est parti. Et là, j'ai dit ok.
Tu vas voir ce qui va se passer, mon copo.
C'est exactement ça, mais c'était pour lui, mais aussi pour moi et surtout pour les autres. Bon, là, il y a un truc qui s'est fait. Vraiment, je te le dis comme dans les films, c'est pas, je dis pas ça pour comme ça. C'est ok, donc en fait, t'as deux choix. C'est soit on se souvient de toi en mode moins de 30 kilos avec des jambes ouvertes et une trachéo dans le cou, ou on se rappelle de toi avec la médaille du marathon de Londres. Et c'est donc c'est aussi pour moi, c'est aussi pour les autres, et c'est aussi l'image que je voulais donner parce que. Faut pas oublier un truc, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'ai failli y passer. C'est-à-dire, ils avaient même mis mon père dans une chapelle en disant, bon, dites au revoir à votre fils, on est passé par là quand même, tu vois. Et donc, tu as quand même cette idée de, en fait, la lumière, elle peut s'éteindre à tout moment. Donc, autant faire les choses à fond, quoi. Et autant les faire dès que tu as envie. Donc, c'est vraiment tout ce mélange de sensations et aussi de réaction à ce que ce médecin m'avait dit qui s'est mélangé et ça a fait comme un... comme une petite bombe et ok, bon bah écoute, là tu peux pas marcher, tu sais plus marcher, mais il y a un marathon de Londres, donc on est en août, hein, le marathon de Londres il est en l'avril suivant, voilà, go objectif, le challenge.
Donc là on est à un moment de ta vie où tu peux à peine mettre un pied devant l'autre, concrètement de ce que je comprends, comment est-ce que toi tu bascules en mode préparation, comment est-ce que tu dis que tu vas restructurer tout ça, est-ce que tu as besoin d'être épaulé dans tout ça? Est-ce que comment est-ce que tu envisages cette préparation et les différentes étapes?
Bon, je me suis vite refroidi, hein, parce que en fait, l'objectif de la semaine avec le kiné, c'était de marcher 1 mètre. Puis la semaine suivante, c'était de faire l'aller-retour, donc 2 mètres. Il y a un moment, je me suis dit, bon, ça va être compliqué, mais on va y aller. Et en fait, la préparation, donc déjà réapprendre à marcher, s'emboîter. Et le premier run, je m'en rappellerai toute ma vie. Bon, à Londres, il pleut, mais c'était sous la pluie. Et j'ai dû faire un tour de ma maison. Ça, c'était assez cool.
Ça peut être une grande victoire, j'imagine, pour toi.
Mais franchement, c'était assez, assez émouvant. Et après, j'avais une amie à l'époque qui était personal trainer, qui était prof de sport et qui m'avait accompagné. Donc, j'avais fait… j'avais tout un petit programme que je faisais aussi de mon côté et avec elle, des squats, du tapis, enfin voilà, j'avais une prépa là-dessus, du TRX parce que forcément plus de muscles dans les jambes, pas dans les bras non plus, donc fallait se remuscler de partout et la mémoire du corps est assez bien faite, donc c'est revenu assez rapidement pour le coup. En 2 mois, j'avais repris mon physique d'avant entre guillemets. Mais cette prépa, elle a été faite petit à petit déjà sur l'aspect musculaire. Et après ce tour de pâté de maison, tu fais 1 km, 2 km, 5 km, 10 km. Et puis tu envisages vraiment la préparation d'un marathon, donc les 3 mois et demi précédents, tout marathon, où là, je m'étais fait un petit programme, mais rien de précis parce que l'objectif, c'était pas faire un temps, c'était pas voilà, c'était vraiment de le faire, d'aller au bout. Donc c'était, j'avais fait une sortie longue qui était un peu le test de tout ça. Donc j'avais fait Hyde Park un dimanche matin, 30 km dans Hyde Park, donc je connais par cœur maintenant. Et la préparation, elle s'est faite comme ça, un peu maladroitement, mais surtout pour se tester petit à petit.
Tu étais suivi à ce moment-là par le staff médical ? Est-ce qu'ils t'accompagnaient ? Est-ce qu'ils ont essayé de te dissuader peut-être ou de te dire que ce n'était pas raisonnable à faire à partir du moment où toi, tu avais basculé sur cet objectif-là ? Donc, j'imagine que tu as parlé avec eux. Est-ce qu'ils ont essayé de te dire que ce n'était pas faisable ou pas, en tout cas pas souhaitable ?
Alors, je les ai très honnêtement évités parce qu'ils me disaient que ce n'était pas une bonne idée, qu'il ne fallait pas le faire. L'entourage me disait « mais pourquoi tu fais ça ?» etc. Mais comme le book dont je te parlais tout à l'heure, un peu borné et on y va tout droit, c'était quoi qu'on me dise, en fait on me disait de pas le faire. Mon GP, qui est l'équivalent du médecin traitant à Londres, me disait mais jamais, je vous donne jamais votre autorisation pour faire ça et tout. Les médecins de l'hôpital Merton qui me suivaient à distance me disaient pourquoi, mais jamais, vous avez fait un semi, vous faire un marathon, vous êtes fou, vous voulez revenir. Enfin, tout le monde me disait de pas le faire en fait. Et l'entourage très proche, et puis il y a même des fois où j'ai douté, j'ai dit pourquoi, et en fait il y a le coup du challenge et la mission que je m'étais confiée était plus forte, et du coup j'y suis allé quand même. Mais non, j'étais pas suivi médicalement, c'est vraiment pas une bonne idée, hein, je le dis, mais à ce moment-là c'était plus fort en fait.
Et mentalement, tu as eu des creux, enfin, dans cette période-là, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit que tu n'y arriverais pas, ou que, enfin, est-ce qu'il y a un moment du doute, est-ce qu'il était constamment présent, ou est-ce que tu as eu des gros downs dans cette phase-là préparatoire, ou est-ce que finalement tu as toujours cru que tu allais réussir à le faire quel que soit le chemin, mais que tu irais au bout de ce marathon et tu irais chercher cette médaille?
Alors pendant la prépa, je me suis, alors j'ai pas eu force, enfin t'as des moments de un moment creux un peu, mais en fait pendant la prépa, je me suis rapproché d'une association et j'ai levé des fonds pour une ONG pendant la préparation, et j'ai couru pour cette ONG aussi pendant le marathon de Londres derrière. Cette association s'appelait World Child, en gros c'est une asso qui vient en aide aux enfants dans des pays en guerre. Donc en gros, moi ça me motivait, j'avais choisi aussi cette asso parce que moi je m'étais réveillé un peu dans un état comme si j'avais eu un accident ou j'avais… pas sauter sur une mine, mais tu vois un peu le truc. J'avais des jambes en vrac, j'étais dans un lit d'hôpital, 2 mois de coma, etc. Sauf que moi, la chance que j'ai eue, c'était d'être hyper bien accompagné médicalement, mais aussi par les amis et l'entourage. Et cet assaut-là redonnait en fait un entourage que moi j'avais eu et un climat d'accueil, etc., à des enfants qui, en zone de guerre, n'ont pas cette chance. Donc, en fait, j'avais choisi cet assaut-là et non seulement je le faisais pour eux, j'ai levé pas mal d'argent pour eux pendant la préparation et je remercie tous les gens qui avaient donné à ce moment-là aussi. Mais ça m'a aussi, moi, donné de la force parce que je l'ai fait pour eux aussi. Tu vois. Donc, ça m'a motivé et ça m'a évité, comme tu disais, les moments un peu down, etc. Parce que du coup, il y avait…
Un projet plus global, ouais, au-delà de toi et ta reconquête. Et donc là, on est le 12 avril 2014, c'est la veille du marathon. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là?
Bah déjà, compliqué, tu dors pas forcément bien avant une course en général, tu as déjà vécu ça aussi. Tu as du mal déjà à la base à dormir, mais en plus, je me disais, et c'est là en fait les vraies questions arrivent. Pourquoi t'es pas certain d'arriver au. Un, t'es pas certain d'arriver à l'arrivée, mais aussi, je me suis dit, mais ça se trouve, médicalement, je suis pas du tout bon, et en fait, il va me se repasser ce qui m'est déjà arrivé 9 mois avant. Donc, c'est un mélange d'appréhension parce que la course, parce que c'est aussi mon premier marathon, et puis l'aspect santé où tu te dis, ça se trouve, la lumière elle peut se rééteindre à tout moment. Donc, tu vois, c'est cette espèce de sensation la veille. Mais motivé quand même, tu vois, j'avais des messages bienveillants d'amis, de famille, etc. Mais voilà, la nuit compliquée, pas forcément un gros sommeil, j'ai dû dormir 3-4 heures grand max. C'est surtout le matin où là tout a changé, c'est excitation maximale. Et en fait, là tu rentres vraiment dans ta bulle. Et c'est là où, vu que c'est aussi mon premier marathon, donc je te parle aussi à ce moment-là comme quelqu'un qui découvre toutes ces sensations-là, c'est. Voilà, je pense que tous les marathoniens qui nous écoutent ont connu ça. C'est le matin quand tu te rends sur le lieu de départ, dans la tête, c'est génial. C'est un mix d'excitation, d'appréhension. T'as une boule au ventre, mais en même temps, c'est une bonne boule au ventre, tu vois. Et c'est tout ça qui se passe. Et en fait, à Londres, c'est pas mal organisé, donc t'as pas le temps. Enfin, tous les métros sont gratuits, tous les métros sont bien faits. Il y a pas de file d'attente. Donc t'as vraiment le, t'as qu'un truc auquel penser, c'est ta course, ta bulle. Et c'est là-dedans que je me retrouve le matin de la course. Le départ du marathon, il est dans un coin assez cool, c'est Greenwich Park, donc c'est tout à l'est. C'est un super parc, une super forêt, et le départ se passe là-bas. Voilà, le matin du départ, le marathon de Londres, il y a un peu moins de personnes qu'à Paris. On parle quand même de 40 000 personnes, 45 000 personnes. Donc c'est quand même du monde. Mais super excitation le matin. Et puis premier marathon, ça y est, on y est. Ça fait 9 mois qu'on se bat pour ça. C'est parti pour la bagarre parce que 42 km, c'est long et il va falloir les faire maintenant.
Le marathon de Londres est réputé pour son ambiance, là, est aussi hyper festive. Tu perçois ce qui se passe autour de toi ou t'es déjà enfin, t'es plongé dans ta bulle et focus sur toi, tes sensations et sur ton objectif? Ou est-ce que tu arrives aussi à te laisser porter par ce qui se passe autour de toi au moment de prendre le départ, au-delà de la ferveur et de l'excitation que toi tu ressens? Est-ce que tous les éléments exogènes, ils arrivent jusqu'à toi ou est-ce que tu es vraiment focus et hermétique à tout ce qui se passe autour?
En fait, les Anglais, je les adore parce que, tu vois, là où, par exemple, sur le semi, j'avais été dans ma bulle parce que musique à fond dans les oreilles, dans mon truc. En fait, là, sur le marathon de Londres, j'ai très vite été décroché par les gens autour. Alors, l'ambiance déjà, parce que de chaque côté de la route, tu as 5-6 rangées de personnes du 0 au 42e kilomètre. C'est un stade de foot pendant 3-4 ans en fonction de son temps, mais c'est un stade de foot tout le long de la course. C'est assez incroyable. Et surtout, là où ça te fait décrocher et que tu te dis c'est génial d'être là, c'est qu'en fait, Londres, c'est un marathon qui est connu pour tout l'aspect charity. Donc, il y a plein de gens qui courent pour des assos, donc qui sont déguisés, mais qui essayent de battre des records. Moi, je me rappelle avoir fait la course et j'avais été un peu deg qu'il soit arrivé pas trop loin de moi. J'avais un mec qui dribblait 2 ballons de basket tout le long de la course. T'avais un militaire, donc je pense que lui, il avait dû perdre un pari, mais il était en Rangers, en tenue militaire, casqué, gros sac dans le dos, il courait.
Quel enfer!
Quel enfer pour lui, mais en fait, t'avais un mec qui était déguisé en oreille, t'avais un mec en tour Eiffel, t'avais des gars qui portaient des trucs, enfin, et en fait, c'est une super ambiance. Et t'as des gens déguisés partout, déguisés en princesse, enfin, tu vois, tous ces gens-là, en fait, ils font ça pour l'Inès Book ou autre, mais aussi pour des charities. Et ça te donne, tu vois, ce mélange de ambiance stade de foot, gens un peu fous autour de toi, qui tentent des trucs incroyables. En fait, tu décroches vite et t'as juste envie d'être là pour la fête, en fait, tu vois. Même si ça reste un marathon, ça reste une course. Mais du coup, ça te permet de, voilà, t'évader, de rigoler, de sourire quand tu croises quelqu'un, tu fais des checks à tout le monde. C'est assez cool comme ambiance. Et en fait, tu vois, l'appréhension, la bulle, la peur ou le côté un peu bagarre, faut y aller. En fait, il a vite disparu parce que les Anglais sont géniaux et ils te font vite décrocher pour toute cette ambiance. Et après, la course en elle-même, elle est assez incroyable parce que Tu traverses tout l'est de Londres, pardon, donc Greenwich est à l'est, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc tu traverses tout l'est de Londres, tu arrives à Tower Bridge, enfin, tu vois, c'est des super lieux, tu arrives près de la Tamise et cette course, elle est incroyable. Donc du 0 jusqu'au 25, c'était une partie de plaisir, mais en vrai, c'était vraiment
Et tu te
génial.
sentais en confiance à ce moment-là? Est-ce que tu as déjà en tête que tu vas réussir à finir ou pas encore? Là, tu te laisses bercer et tu prends un pas après l'autre sur le premier semi globalement.
Tout ça avait disparu en vrai. Je courais avec une bouteille d'eau à la main désormais, donc je me suis dit au moins là-dessus on est tranquille. J'ai croisé le staff de l'ONG à plusieurs parties de la course, donc ça a des super souvenirs aussi, et puis ça te donne un coup de boost incroyable. Mais là, ouais, il n'y avait plus trop d'appréhension et là c'était en avant et pas que je savais que j'allais le faire, mais c'était ça, là, pour le coup, ça devenait naturel, tu vois. C'était ça y est, les bonnes sensations, elles sont là. On est là, c'est la fête, c'est le lieu où il faut être. Et c'est parti. Tu prends un
T'as quand
mur
même
après.
pris le mur, rassure-moi.
Il y a toujours ce petit mur. Et ce qui est sympa, donc là, c'est un peu le mauvais côté du marathon de Londres, c'est que le mur, tu le prends dans un endroit qui s'appelle Canary Wharf et qui est un endroit super parce que c'est l'équivalent de la Défense à Londres. Avec des virages, des trucs, des tours autour et tout. Pour se prendre un mur, c'est vraiment pas le. C'est vraiment pas génial, mais bon, comme tout mur, il se passe, hein. Et puis, juste vers le 32-33 de mémoire, tu arrives près de la Tamise, et c'est là où, en fait, c'est tout droit, parce que tu commences la Tamise à Tower Bridge, et pour ceux qui connaissent, le Big Ben, c'est plus 5, 6, 7 bornes plus loin. Et là, bah, c'était aussi les lieux que je connaissais par cœur, parce que c'est là où je m'étais entraîné, où j'avais découvert le running et tout. Donc, c'est aussi là où tu as plein de sensations qui arrivent. Et l'endroit, il paraît familier. Donc, là, je savais que j'allais aller au bout. Et pour le coup, là, ça devenait plaisant.
Donc là, tu as déroulé jusqu'à quelques centaines de mètres de l'arrivée.
Là, tu déroules, tu as la Tamise, tu as les super endroits, tu arrives devant le Big Ben. Pour la petite histoire, tu vois David Beckham qui est dans l'espace VIP, qui fait des coucous à tout le monde. Donc ça m'avait fait sourire à ce moment-là. Et puis, Big Ben, tu tournes à droite, tu arrives devant le Parlement. Et puis là, tu arrives dans Green Park. Et l'arrivée du Marathon de Londres, elle se passe entre Buckingham Palace et Trafalgar Square. Donc, c'est un endroit qui s'appelle The Mall. Et là, c'est la fête parce que de 500 rangées de personnes, en fait, c'est noir de monde. C'est une ambiance de folie. Tu vois, j'en ai encore des frissons en te le racontant, mais c'est là pour le coup, un, tu as fait ton marathon. Deux, j'ai réussi mon challenge que je m'étais fixé. Donc, c'était dans ma tête, là, ça explose. Ça explose parce que ça y est, on y est. Ça y est, déjà, je suis en vie. Deux, je suis à l'arrivée, je l'ai fait. Et le coup de grâce, c'était. Juste devant Trafalgar Square, j'avais des amis qui m'attendaient. Je les entends crier. Ils avaient des drapeaux français, bretons et tout. Donc, je les vois. Forcément, je vais les embrasser. Je pousse des cris de guerre. Puis là, sur l'arrivée, donc sur ce mall, les 200-300 derniers mètres, j'ai découvert la sensation incroyable que je pense chaque coureur doit connaître à sa façon, mais qui surtout me donne envie d'y retourner depuis. Là, c'était un mélange. Donc, faut imaginer le contexte, hein. T'as Buckingham Palace dans le dos, tu es sur le Mall, tu as des drapeaux anglais, l'Union Jack qui flotte partout, une ambiance de folie, un contexte avec ça crie partout, tu as de la musique et tu as des soldats en randonnion qui te font des saluts militaires et tout. Enfin, tu as l'impression de, je sais pas, tu sais, d'être un héros, tu rentres dans Rome, un truc comme ça et tout. Enfin, et là, c'est un mélange, tu vois, dans ma tête, c'est je pleure, je ris, je repleure, je ris. Enfin, je sais pas, c'est une montée d'endorphines, de sentiments, de trucs incroyables. Et puis surtout, il y avait l'aspect challenge, revanche, tout ça qui se mélange. Je crois que la personne, la petite dame qui m'a mis la médaille autour du cou, voilà, c'est tombé
C'est
tout
tombé sur
seul,
elle.
tombé sur elle. Et
C'est quoi la première
enfin, je
chose
l'ai
que tu
pris dans
t'es
mes
dit
bras.
en
Enfin,
franchir la ligne, la première pensée? Est-ce que tu t'en souviens?
ouais, ça y est, je l'ai fait, quoi, tu vois. Je l'ai fait et je l'ai pas fait tout seul parce que, tu vois, j'avais le t-shirt de l'asso, donc c'était aussi pour eux, donc je l'ai fait pour eux. Enfin, et puis c'était le vrai truc que je me suis dit à ce moment-là, c'est et c'est mon motto depuis, c'est quand on veut un truc, on peut en fait, tu vois. Et alors, tu as mis l'obstacle, hein, parce que tu as les gens qui te disent faut pas, tu as l'aspect physique, mais en fait, si tu veux vraiment un truc, quel que soit l'obstacle, tu y vas. Donc, je reviens à l'idée de book tout à l'heure et ça me plaît pas mal. C'est challenge élevé, mets tout en œuvre pour y aller. Et à ce moment-là, en fait, c'est ça. C'est ce jour-là que je me suis dit, dès que tu veux faire un truc, dès que tu as envie de faire quelque chose ou dès que tu le sens, faut y aller et faut même pas réfléchir. Sachant qu'en plus, maintenant que je sais que la lumière peut s'éteindre à tout moment et que c'est fini, depuis, dès que je veux faire un truc, j'y vais. Grâce à cette course, grâce à tout ce qui s'est passé, tu vois, je reviens sur Jacques Mayol, mais depuis gamin, je plonge. Il y a 2-3 ans, j'ai toujours voulu faire de la plongée, j'ai toujours été instructeur de plongée, j'avais jamais trouvé le temps. C'est grâce à ça que, il y a un jour, j'ai trouvé le temps et j'y suis allé. Et maintenant, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et cette course, elle est assez symbolique pour ça parce que ça a été le début de, tu vois, aussi, je suis devenu plus mature, plus serein, plus apaisé. Ok, donc je veux ça, bosse pour l'avoir, tu vois. Enfin, voilà, tout est venu de ce genre.
Est-ce que tu as repris rendez-vous avec le médecin qui t'avait dit que le sport fallait oublier? Tu as été partager ça avec lui?
Le lendemain, j'y suis retourné. Tourné à l'hôpital, donc j'avais des fleurs dans la main, j'avais ma médaille autour du cou. Ils m'ont vu partir 9 mois avant en boitant et je suis revenu 9 mois après, le lendemain de la course, en boitant à nouveau, mais pas pour les mêmes raisons. Parce qu'après un marathon, tu marches en canard. Donc au début, on en a rigolé, mais voilà, je suis allé les voir, c'était une surprise, donc je suis allé les voir dans l'unité où ils travaillaient. Et là, ils me voient arriver, donc des yeux qui s'écarquillent, et puis eux, comme moi, tout le monde pleure, on s'est pris dans les bras, on a fait une super photo. Et c'est des gens, c'est ce que je leur ai dit, comme je peux te le dire, je ne l'ai pas fait tout seul, c'est aussi grâce à vous et vous étiez avec moi tout le temps. Donc, parce que c'est des gens qui m'ont retapé, tu vois, à l'époque quand même, parce que j'étais pas en bel état et c'était aussi leur course à eux. Donc voilà, j'avais pris une médaille en rab et je leur ai laissé.
Ouais, j'imagine, pour eux, ça devait être aussi au moins aussi émouvant que pour toi. Est-ce que tu as recouru le marathon de Londres depuis? Est-ce que tu as voulu ou est-ce que tu préfères le garder comme un souvenir figé qui cristallise plein de choses de ce moment-là de ta vie, de toutes les émotions que tu as pu ressentir et tu veux plus y toucher? Et garder ce moment-là avec toute sa dimension symbolique intacte.
Ouais, j'ai vraiment envie de le laisser comme il est. C'est une super course, donc j'encourage vraiment tout le monde à la faire.
Elle est incroyable. Faut être tiré au sort, c'est le plus difficile presque.
Faut être tiré au sort, mais sinon associez-vous à une ONG ou quelque chose et bon, ça facilite les choses pour l'inscription, mais c'est surtout vous courez pour une bonne cause. Et vous le verrez, c'est hyper important là-bas. Ça fait partie du truc aussi. Super course. Moi, je veux la laisser comme elle est. Mais depuis, oui, j'ai couru. Alors, c'était le premier marathon et maintenant, j'en fais un par an. Donc, j'en suis à mon 5e. Mieux préparé. Donc, je fais des vrais prépas. Je fais attention à moi. Je mange mieux. Je m'hydrate. Enfin, voilà. Mais depuis, ouais, je recours. J'ai refait plusieurs semis depuis.
Là, ton prochain objectif, c'est quoi? Est-ce que le calendrier est un peu bousculé en cette période de confinement? Alors, en tout cas, au moment où on enregistre cette interview, est-ce que tu as déjà en ligne de mire un projet pour peut-être cette fin d'année ou à défaut en 2021?
Alors maintenant, ouais. Alors j'avais Madrid par exemple, Madrid ou Rome. En fait, maintenant les marathons, j'ai trouvé un truc assez cool, c'est je cours un marathon dans une ville où j'ai jamais mis les pieds. Comme ça, je profite du marathon et des 42 km où on a aussi que ça à faire, c'est de visiter et de regarder autour de soi dans une ville que tu connais pas. Donc t'as l'impression que le temps passe plus vite aussi. Donc depuis, tu vois, Tel Aviv, j'avais jamais été, Barcelone jamais été, Lisbonne à l'époque jamais été. Donc là, je voulais faire Madrid. En avril, mais avec le confinement compliqué, donc on verra pour l'automne, mais un marathon par an et peut-être un jour te suivre sur un ultra ou quelque chose comme ça pour aller découvrir d'autres.
J'y suis pas encore, je vais franchir le pas, j'espère, mais je serais ravi qu'on prenne le départ ensemble en tout cas. Écoute, merci beaucoup Guillaume pour toute cette histoire. Je trouve plein d'espoir et qui illustre en tout cas ta détermination hyper impressionnante. Au-delà du fait que tu sois passé à travers quand même, ce trou d'air énorme où tu aurais pu y rester, c'est incroyable que tu aies œuvré et que tu aies eu le mental pour te sortir de tout ça.
Je voulais te remercier parce que c'est la première fois que je le raconte comme ça, aussi longtemps, dans le détail. J'avais jamais fait l'exercice.
Écoute, c'est un plaisir. C'est un plaisir que tu nous aies raconté ça, en tout cas. Et oui, pour conclure, tu l'as touché du doigt tout à l'heure, mais voilà, est-ce que habituellement, il y a le mot de la fin. Là, ça va être plutôt le motto de la fin. En gros, le motto, c'est l'espèce de devise qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Pour toi, ce serait quoi, cette espèce de mantra et voilà, cette espèce de lumière tout en haut là, qui te guide et qui t'accompagne dans tout ce que tu entreprends?
Ouais, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire d'une autre façon. C'est Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Donc pour les coureurs, ça peut bien l'illustrer. C'est vous voulez un truc, allez-y, parce qu'il y a forcément une route qui y mène et faut juste mettre ses baskets et y aller. Mais voilà, quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Faut le vouloir, c'est bien, mais faut aussi y aller. Donc mettez vos baskets et allez chercher ce que vous voulez atteindre. Et c'est un truc qui me guide depuis ce jour-là et encore aujourd'hui. Voilà, je veux réaliser un rêve d'enfant, boum, je le fais. Je suis à Paris, je veux m'installer pour des raisons personnelles à Marseille. Le lendemain, j'y suis. Enfin, tu vois, ça me guide vraiment tout le temps maintenant.
Génial. Bah, écoute, merci Guy pour ce témoignage vraiment très fort en émotion et riche d'optimisme, d'espoir. Et voilà, c'est la preuve qu'avec la volonté, on peut faire des très grandes choses. Donc, c'est vraiment impressionnant. Pour conclure, bah, tu le sais, on partage, je pense, cette passion tous les deux, c'est la musique. Donc, c'était un peu impossible de ne pas évoquer le sujet dans Course Épique. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, quel est le morceau qui te rebooste dans toutes circonstances ou presque quand tu cours et que tu as soit un passage à vide, soit qu'au contraire, tu as envie d'exploser ton RP? Est-ce que tu as un morceau ultime qui peut te faire renaître de tes cendres?
Et en plus, c'est un groupe qu'on adore tous les deux. C'est LCD Sound System. Et
oui.
Un chanteur, c'est un peu notre héros, James Murphy. Et c'est une musique qui s'appelle Yeah, parce que dedans, il fait Yeah, Yeah, Yeah. Et c'est vraiment le truc qui booste. Et c'est la niaque, tu vois. C'est la grinta. J'adore ce morceau. Et il peut passer en soirée comme il peut passer dans mes écouteurs pendant une course. C'est sûr, t'accélères et ça te donne un coup de boost énorme. Donc, un gros Yeah. Voilà.
Bon, on invite tout le monde à écouter ce morceau, Yeah. C'est une version, elle a un petit nom, c'est la Crass Version, si vous la cherchez, LCD Sound System, Yeah, Crass Version. Merci à nouveau, Guy, ça a été un plaisir et une chance de recueillir ton témoignage et que tu nous racontes toute cette aventure en détail, voilà, qui est fondamentalement, je trouve, positive et porteuse d'espoir, c'est ça que j'en retiens en tout cas. Merci pour ta dispo, j'espère qu'on se reverra bientôt. Alors déjà, on va commencer par être déconfiné, j'espère, et puis je viendrai te faire coucou à Marseille, peut-être à l'occasion d'un prochain Marseille-Cassis. Voilà, en tout cas, j'espère que nos routes et nos sentiers se recroiseront très bientôt.
On ira admirer la vue du haut de la Gineste au Marseille-Cassis.
Avec grand plaisir, Guy. Merci beaucoup en tout cas.
Ciao, Guillaume.
Salut, à bientôt. Cet épisode de Course Épique est à présent terminé. Vous avez vous-même vécu une course épique? N'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse guillaume@courseepique.fr. Si vous avez des idées, des suggestions ou des remarques pour améliorer ce podcast, vous pouvez les partager avec moi à cette même adresse. Cet épisode vous a plu? Vos 5 étoiles sur iTunes seront précieuses pour le faire connaître. N'hésitez pas à parler de course épique autour de vous, je suis sûr que vous comptez beaucoup de passionnés de trail et de running dans votre entourage. Merci et rendez-vous dans le prochain épisode de Course Épique avec Sylvain Cusseau qui viendra partager avec nous son incroyable aventure à l'Ultrafjord en Patagonie. A bientôt!
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.